Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, les odeurs de tomates, de cacao, les parfums en règle générale sont des associations de centaines de molécules odorantes. Pour celles du cacao, on ne trouve pas moins de 600 molécules et parmi elles, certaines nous rappellent la cacahuète, la friture ou encore les odeurs de pieds. Pour être incollable sur le sujet, le programme Un chercheur, une manip au Palais de la Découverte à Paris nous emmène au pays des flaveurs. Canal Académie s'est rendu sur place pour découvrir là-bas un appareil peu commun, le chromatographe. Cette machine, utilisée sur le plan de la recherche agronomique ainsi que dans le domaine industriel, est capable de séparer une par une toutes les molécules odorantes d'un élément, une tomate, un rouge à lèvres ou encore un yaourt. Et en bout de course, un testeur comme vous et moi, un panéliste en termes techniques, est chargé de donner ses appréciations. Cela vous intrigue certainement, alors partons tout de suite au Palais de la Découverte où Sokoun Teatlang, jeune scientifique, nous dit tout sur cette machine ainsi que sur la bouche artificielle, un autre procédé qui permet de connaître les saveurs dégagées par les aliments mâchés. On l'écoute. Sokoun Teatlang, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ici un chercheur une manip concernant la chromatographie olfactive ?
Tout à fait. Ici, sur le stand Un chercheur, une manip, on fait un jeu olfactif autour de la tomate. On montre aux gens de quoi est constituée la tomate. Donc, pour analyser la tomate, effectivement, on fait une chromatographie en phase gazeuse. Et le principe de la chromatographie est le suivant. Vous avez une colonne capillaire qui est placée dans un four. Lorsqu'on injecte le liquide dans le four, le liquide est vaporisé. Et les différents composants, lorsqu'ils vont passer dans la colonne, vont se séparer à cause des différences d'affinité entre le composant chimique et la phase stationnaire.
Parmi ce que vous pouvez proposer aux personnes qui vous écoutent ici, à chercher une manip au Palais de la Découverte, on peut sentir les différents composants qui font en fait l'odeur de la tomate. Vous pouvez nous en dire plus ?
Oui, tout à fait. Donc, c'est un jeu assez étonnant parce que dans la tomate, on va sentir des odeurs de punaises écrasées, de concombres. Donc ça dépend des personnes. On peut sentir la barbe à papa, mais encore l'odeur de friture, etc. Donc c'est assez étonnant, des odeurs assez caractéristiques et différentes les unes des autres, mais présentes dans la tomate. Après, c'est une question de proportion.
Et alors, combien de molécules odorantes composent l'odeur de la tomate ?
Alors, dans un produit naturel, c'est toujours un mélange complexe. Il y a des centaines de molécules différentes, en fait. Donc là, dans la tomate, une centaine, on va dire.
La tomate, c'est un exemple. Vous avez peut-être d'autres exemples à nous présenter qui pourraient avoir un intérêt particulier ? Simplement, par exemple, sur le cacao ou sur un autre fruit ou un autre légume qui présenterait peut-être des odeurs, des molécules odorantes particulières.
Disons que sur le stand, on travaille donc sur la tomate, donc ça c'est un jeu qui plaît beaucoup au public, mais on travaille aussi sur un extrait de cacao. Donc sur le même principe, sauf que cette fois c'est une personne qui est concernée, qui va sentir directement à la sortie du chromatographe. Et c'est quand même une première, parce que c'est la première fois que ce type de dispositif sort d'un laboratoire et est montré au public. Donc cette personne donc, va avoir un port de flairage et sentir à la sortie du chromatographe les différents composants qui vont se séparer donc, au fur et à mesure.
Voilà. Alors là, c'est plutôt pour le cacao, hein.
Tout à fait, c'est pour le cacao et de la même manière on peut sentir des produits assez différents et l'odeur de rance, l'odeur de vinaigre, de fleurs, de cacahuètes, etc. Tout ça présent effectivement dans l'arôme de cacao.
Mais ça c'est parce que le cerveau humain l'associe à des choses peut-être effectivement moins plaisantes telles que l'odeur de rance, ou est-ce que c'est parce que l'on retrouve des molécules odorantes qui sont les mêmes dans le cacao que dans les odeurs que vous venez de nous citer ?
Non, c'est lié à la présence d'une molécule. Effectivement, c'est une molécule qui évoque le rance, comme le vinaigre qui est un acide. C'est l'acide acétique, donc présent dans le cacao, et que les gens vont assimiler naturellement au vinaigre.
Poursuivons sur notre lancée du cacao. Je me suis laissé entendre dire que les molécules odorantes qui composent l'odeur du cacao étaient les mêmes que pour le café, mais avec des degrés différents, en fait.
Oui, c'est vrai. Dans le café, vous avez 800 molécules, hein, 800 molécules odorantes différentes. C'est un mélange vraiment complexe. Dans le cacao, on trouve facilement 600 molécules. Évidemment, il y a toujours des molécules qui sont communes. Comme pour la tomate, les composants comme le furanéol, l'inalol, etc., on les trouve dans plein d'autres végétaux. Et le linalol, par exemple, c'est aussi un des principaux constituants de la rose. Après, c'est vraiment des questions de proportion.
Alors aujourd'hui, à quoi ça nous sert finalement, ma question est volontairement provocatrice, à quoi ça nous sert finalement de savoir combien de molécules odorantes composent une odeur et lesquelles sont-elles? À quoi ça nous sert finalement tout ça? Les applications.
C'est important pour l'industrie aromatique, l'industrie des parfums également. On cherche toujours à identifier la composition d'arômes pour pouvoir mieux la reproduire, savoir quelles sont les molécules caractéristiques, et puis reconstituer ces arômes connaissant leur composition.
Donc là, en l'occurrence, on utilise un chromatographe, outil qui est là présent sur ce stand, et puis des personnes qui vont tester ces odeurs qu'on appelle des panélistes, il me semble. Vous pouvez nous dire deux mots sur ces personnes-là?
Alors, les panélistes, effectivement, travaillent donc avec les chercheurs de... Bon là, en l'occurrence, les chercheurs de l'INRA, pour tester des nouveaux produits, en fait. Parce que le couplage machine-homme est très important. Comme la machine peut détecter certains composants que l'homme ne sent pas, et vice-versa. Et parce que le nez humain est assez performant, il peut détecter des seuils de l'ordre de 10-8, et le nez humain va percevoir des odeurs que la machine ne va pas déceler. Et donc, c'est un complément qui est très intéressant et qui permet donc de tester des produits alimentaires nouveaux. Les industriels agroalimentaires, par exemple, lorsqu'ils veulent sortir un nouveau produit, vont faire tester de cette manière à des panélistes, et s'ils constatent que des défauts alimentaires ne sont pas perçus par le panéliste, eh bien ça ne sera pas perçu par le consommateur, et donc c'est un produit qui pourra sortir sur le marché.
Alors les panélistes, ce sont des personnes lambda comme vous et moi, ou ce sont des personnes qui ont une expérience déjà, qui ont un nez exercé à ces travaux?
Alors au départ, ce sont des gens comme vous et moi, en fait. Hein. Bon, il faut avoir certaines dispositions, bien sûr, mais effectivement, il y a quand même une sélection rigoureuse. Au départ, sur 100 personnes, 20 panélistes vont être sélectionnés. Mais ensuite, pour qu'ils soient compétents, entre guillemets, ils vont quand même subir un entraînement de 6 mois. Parce que décrire une odeur, ce n'est pas quelque chose d'évident. On n'a pas toujours le même vocabulaire pour exprimer la même chose, etc. Et puis, ce n'est pas quelque chose que l'on fait habituellement. Donc, il faut quand même les éduquer sur ce point-là. Et pour avoir un vocabulaire commun aux 20 panélistes, il faut un entraînement de 6 mois, tout de même.
Vous parlez d'arôme artificiel, d'arôme naturel. Quelle est la différence entre les deux?
Un arôme naturel, il est extrait directement de la plante. Il y a des techniques d'extraction pour cela.
Arôme naturel de vanille, on va réellement aller chercher la vanille, voilà. La gousse de vanille.
Tout à fait, on part de la vanille et puis par des techniques physiques, on arrive à extraire l'arôme de vanille. Maintenant, l'arôme artificiel de vanille, c'est un produit reconstitué, donc vous n'allez pas retrouver exactement les mêmes composants que le produit naturel. Notamment, vous allez avoir la vanilline, plus quelques petites molécules. Mais si vous comparez l'arôme de vanille naturelle et l'arôme reconstitué, eh bien, on va sentir une différence.
On n'obtient jamais la même odeur, saveur.
Jamais exactement le même arôme, parce que les produits naturels, ce sont des mélanges complexes. Donc on ne peut jamais introduire les mêmes composants exactement dans les mêmes proportions. Et sur le plan olfactif, si on est un peu entraîné, eh bien, on ressent cette différence.
Alors, ma question suivante, et là, c'est celle-ci. Est-ce qu'il sera possible, ou est-ce qu'il est déjà possible, de créer de nouvelles molécules odorantes? Quelque chose qui n'existe pas encore dans la nature?
Tout à fait. Il y a toujours des recherches là-dessus pour inventer de nouvelles molécules. Et en fait, bon, en parfumerie, vous avez quelques centaines de produits naturels pour plusieurs milliers de produits de synthèse. Les produits de synthèse sont vraiment quelque chose qui domine dans la palette de l'aromaticien, du parfumeur. Donc là, c'est inévitable. Alors maintenant, effectivement, on cherche constamment de nouvelles molécules, soit pour améliorer les performances, comme par exemple l'éthylvanilline, qui est une molécule artificielle, mais qui a un pouvoir aromatisant bien plus élevé que la vanilline que l'on trouve naturellement dans la vanille. Donc on invente constamment de nouvelles molécules.
Pour terminer, quelles sont les questions que les personnes qui viennent vous voir ici pour, sur votre stand, un chercheur une manip, quelles sont les questions les plus fréquentes que l'on vous pose, ou alors quelles sont les, peut-être les questions les plus, plus amusantes que l'on ait pu vous poser ici?
Non, il n'y a pas vraiment de questions qui ressortent plus qu'une autre, mais les gens sont intéressés par le goût. Évidemment, le goût, ça concerne tout le monde. C'est un sens qui n'est pas très bien connu. Mais ils sont intéressés par le mécanisme, en fait, du goût, de ce qui se passe lorsqu'on mange, donc l'effet de la mastication. Ils sont intrigués aussi par la bouche artificielle, mais là, on n'a plus la machine. Mais ça les intéresse de savoir comment l'aliment est déstructuré et comment ça peut libérer la flaveur en bouche.
Alors justement, vous parlez de goût, de saveur. Effectivement, les odeurs et les saveurs sont très très liées. Et il y avait à côté de ce stand la fameuse bouche artificielle. Même si l'instrument en question n'est plus ici, vous pourriez quand même nous en dire deux mots. À quoi sert cette bouche artificielle ?
Tout à fait. La bouche artificielle a été mise au point par la plateforme 3D en collaboration avec l'INRA, donc, et ça permet de mimer les mouvements de mastication de la bouche. Alors évidemment, les conditions de la bouche sont reproduites, c'est-à-dire qu'on injecte une salive à 32 degrés, qui contient une salive artificielle, hein, qui contient des enzymes, etc. Et donc des cycles de mastication s'opèrent, hein. Vous avez même une langue artificielle qui reproduit vraiment les mouvements de la bouche et qui permet donc d'étudier comment notre façon de mastiquer, eh bien, ça va jouer sur la perception des saveurs. Et une personne âgée, c'est une personne qui a moins de force et qui va mastiquer moins bien. Eh bien, une personne âgée généralement ressent moins le goût parce qu'elle mastique donc moins. Voilà. C'est intéressant parce que ça permet de tester des produits comme les médicaments que on ne peut pas faire tester à des êtres humains, donc, d'où l'intérêt de la bouche artificielle et puis éventuellement des aliments pour animaux, entre autres.
C'est donc un outil qui était là non seulement pour le présenter aux visiteurs ici du Palais de la Découverte, mais qui est utilisé aussi dans la recherche.
Tout à fait. Oui, c'est utilisé dans la recherche. Et la bouche artificielle, vous n'avez qu'un seul exemplaire en France. Hein. Donc c'est pour ça qu'elle n'est pas restée très longtemps sur le stand, parce que les chercheurs l'utilisent pour continuer leurs études.
Et merci de nous avoir donné toutes ces précisions. Maintenant, nous savons tout sur les odeurs et les saveurs. Merci.
Restons au Palais de la Découverte, toujours sur le stand du chromatographe, mais cette fois avec un autre interlocuteur. Il s'agit de Sylvain Lefavret, responsable du projet Un chercheur, une manip. Il revient avec nous sur les objectifs de ce concept. Sylvain Lefavret, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous accorder une petite interview. Donc nous sommes au Palais de la Découverte à Paris. Vous êtes responsable du module Un chercheur, une manip ici. Alors en quoi consiste ce module, Sylvain Lefavret ?
Alors ce programme, disons, est parti sur une idée du directeur du Palais de la Découverte, Jacques Guichard, depuis à peu près 2 ans. Il consiste en fait à faire venir des chercheurs au Palais de la Découverte qui viennent sur un stand aménagé à cet effet, présenter leurs recherches à nos visiteurs, et de façon à faire faire connaître en fait leurs travaux et leurs expériences au public.
Alors jusqu'à présent, qu'est-ce qui a pu être présenté au public, mis à part la bouche artificielle et puis le chromatographe olfactif sur lequel là nous nous sommes intéressés?
Il y a eu à peu près 10 ou 12 présentations, 10 ou 12 thèmes à l'heure actuelle en fait. Ça a démarré en fait début 95. Il y a d'abord eu 2 présentations dont je ne me suis pas occupé, c'était avant moi, donc sur les robots et puis la télévision, les débuts de la télévision. Ensuite, il y a eu des thèmes comme par exemple vagues et tsunamis, la pollution des nappes phréatiques, des expériences sur les photons, sur des interférences faites avec des photons uniques, ce qui paraît paradoxal. Il y a eu les rats plongeurs, le comportement de société de rats. Il y a eu sur les lasers ultra rapides, ultra puissants, qui a nécessité le transport d'une table optique de 1 tonne à peu près par les fenêtres du palais à l'aide d'une grue. Il y a eu sur la gravitation également, avec une balance ultra sensible qui permettait de mesurer les efforts d'attraction entre deux masses, des forces gravitationnelles entre deux objets en fait.
Donc oui, voilà, c'est quelques exemples. Et je suppose que ce sont des programmes qui après vont peut-être ailleurs, dans les écoles ou dans des musées, on va dire, régionaux. Comment ça se passe? Ça a lieu simplement ici au Palais de la Découverte, d'où l'importance de venir ici.
Nous, en ce qui nous concerne, le but est de développer de nouvelles idées au Palais de la Découverte. Les écoles se déplacent chez nous, donc nous n'avons pas besoin d'aller dans les écoles. Un début important, effectivement, c'est d'enrichir le fond d'expérience du Palais de la Découverte en introduisant des expériences récentes. Jusqu'à une date récente, on avait tendance un peu à présenter déjà de la science acquise, déjà de la science connue depuis longtemps. Là, si vous voulez, on renoue avec la tradition d'origine du Palais de la Découverte. Son fondateur, Jean Perrin, voulait présenter de la science en train de se faire, c'est-à-dire rendre les visiteurs témoins de la découverte. Et nous, en fait, on est en train de renouer avec cette idée première. Et là, il s'agit vraiment de présenter des choses qui sont en train de se découvrir. Même des fois, on n'a pas d'explication sur certaines choses. Et là, on dit à nos visiteurs, voyez, on n'a pas d'explication. Voilà ce qu'on observe, mais pour l'instant, voilà où on en est dans l'état actuel de nos connaissances.
De montrer en fait à vos visiteurs qu'ils sont vraiment spectateurs de la science proche d'eux en tout cas.
Voilà, ils sont les témoins de la découverte en fait.
Quelles seraient les prochaines Un chercheur, une manip à venir pour les auditeurs qui nous écoutent et qui aimeraient bien se rendre éventuellement au Palais de la Découverte puisque tout le monde ne les écoute pas de Paris.
Bien sûr, donc du 13 février jusqu'à fin avril. C'est l'Institut français du pétrole qui va présenter des expériences sur les mélanges d'eau et de pétrole. En fait, c'est un problème de société important. Il s'agit de récupérer le maximum de pétrole dans les couches géologiques. La question, c'est qu'on extrait maintenant des pétroles de plus en plus épais, de plus en plus lourds, dont certains même sont souvent solides à température ambiante, comme le pétrole qui vient du Canada ou du Venezuela. Donc il faut développer des techniques pour les extraire mieux. Et il y a aussi une autre problématique, c'est que les pétroles qu'on extrait en général sont toujours mélangés à de l'eau, pratiquement tout le temps. Donc il faut arriver d'une part à séparer cette eau du pétrole. On obtient un peu des mayonnaises ou des émulsions hein, quand le pétrole sort des puits. Donc il y a des techniques en fait, soit physiques ou chimiques ou physico-chimiques qui permettent de séparer ce pétrole.
C'est plus dans le domaine, en fait, on va dire, de l'extraction du pétrole plutôt que les problèmes écologiques qu'il peut y avoir avec des nappes de pétrole dans la mer, dans les océans.
Oui, alors, en fait, ces recherches se sont ancrées sur des recherches antérieures qui concernaient les marées noires. Comme la problématique est à peu près la même, quand le pétrole est mélangé à l'eau de mer, en fait, les vagues finissent par former des émulsions, des mélanges intimes. Et la question après, c'est de traiter ces marées noires. Alors soit on peut effectivement absorber le pétrole qui se trouve à la surface de la mer avant qu'il soit trop émulsionné avec des produits spéciaux. Ça ressemble en fait à la ouate de cellulose, des feuilles qu'on met qui ont une affinité pour le pétrole mais pas pour l'eau en fait. Et puis une autre technique qui consiste en fait à disperser le pétrole. Donc là, on met des agents dispersants qui vont permettre au pétrole d'être pratiquement dissous, de partir en très petites gouttelettes dans l'eau de mer. Et là, les bactéries peuvent le consommer après et le transformer. Donc il s'agit d'une biodégradabilité du pétrole, mais qui est obtenue justement par sa dispersion.
Ça, c'est pour le mois de février, alors.
Voilà, donc c'est à partir du 13 février jusqu'au 29 avril. Voilà.
D'autres peut-être ateliers ?
Oui. Donc après le 29 avril jusqu'à la mi-juillet, il y aura un autre thème qui n'est pas encore défini. Et à la rentrée, c'est l'ONERA qui viendra présenter des techniques sur la vibrométrie laser. Leur technique consiste à envoyer un faisceau laser sur des structures vibrantes, par exemple des avions. Et par par la lumière qui est renvoyée par cette structure vibrante, on arrive à déterminer les caractéristiques de la structure, donc à remonter au type d'avion. Voilà, donc dans le hall du palais, on aura un laser qui enverra sur une structure vibrante de l'autre côté du hall et qui permet, en retour, on analysera cette lumière pour voir les vibrations en quelque sorte de la...
On l'a bien compris, plein de projets, donc ça signifie qu'un chercheur, une manip, ça marche bien, vous avez du succès?
Tout à fait, aussi bien au niveau des chercheurs qu'au niveau du public en fait. Au niveau des laboratoires de recherche, les gens sont très enthousiastes et pour eux c'est aussi une opportunité que de venir dans un établissement prestigieux comme le nôtre en fait, présenter leurs recherches. Et puis pour nous c'est aussi l'occasion vraiment d'avoir des présentations qui sont à la pointe de la science et des présentations de qualité, et aussi de pouvoir avoir un entretien direct entre le public et les chercheurs. C'est-à-dire que les visiteurs souvent ne se rendent pas vraiment compte de ce qu'est un chercheur ou un laboratoire de recherche.
Et ce contact... S'il veut bien faire toute la journée.
Voilà, c'est ça. Ce contact direct, c'est une rencontre en fait. C'est pas un exposé, c'est une rencontre entre un chercheur et des visiteurs. La discussion peut des fois durer une ou deux heures avec certaines personnes.
Avec un accès, on va dire, simple aux visiteurs qui viennent pour qu'ils puissent comprendre, en tout cas, du mieux possible, les manipulations peut-être un peu compliquées à la base des chercheurs qui viennent ici, sur ces ateliers.
Oui, bien sûr. En fait, souvent, les chercheurs peuvent avoir tendance à avoir un discours un peu scientifique. Mais bon, souvent, les chercheurs qui viennent ont le souci de communiquer. Souvent, ils ont déjà beaucoup communiqué au public et en fait, en général, il n'y a pas de problème sur ce plan-là.
Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, vu que vous avez déjà du succès ?
Eh bien, ce qu'on peut me souhaiter, c'est que ça continue comme c'est parti. Et puis, en fait, aussi, on souhaite le généraliser dans le Palais de la Découverte, c'est-à-dire avoir plusieurs stands. Et il y a aussi des musées étrangers qui sont intéressés, en Allemagne, en Amérique aussi, voilà, en Amérique du Nord. Sinon, il y a aussi un point important que j'ai oublié de préciser, c'est que c'est un partenariat, hein, c'était une opération de partenariat. Les médiateurs du Palais de la Découverte sont effectivement impliqués là-dedans. Les périodes pour chaque thème sont de l'ordre de 2 mois et demi, et le chercheur, bien sûr, ne vient pas, le ou les chercheurs ne viennent pas tous les jours. En fait, ils viennent quelques jours parmi ces 2 mois et demi qui sont traités comme des événementiels. Et les autres jours, c'est les médiateurs du Palais de la Découverte qui utilisent leur matériel pour faire les présentations publiques. Ça leur permet de se familiariser avec de nouveaux exposés, de nouvelles présentations, et après de les intégrer éventuellement au Palais de la Découverte sous forme de nouvelles présentations.
Donc, ce sont des partenariats avec, là en l'occurrence, l'INRA, mais avec d'autres grandes institutions, je suppose.
Donc après la période de présentation à chercheur une manip, on est souvent amené à intégrer certaines expériences dans les présentations du Palais de la Découverte. Ça peut être pour des exposés, pour des éléments d'exposition libre-service ou pour des expositions itinérantes. Et là, c'est l'occasion d'un nouveau partenariat avec le chercheur pour, par exemple, reconstruire une manip identique à la sienne ou pour adapter sa manip. C'est arrivé même que des chercheurs nous fassent cadeau de leur expérience après la période un chercheur une manip. Voilà, donc c'est une deuxième phase, qui est aussi une phase partenariale avec les laboratoires.
C'était Sylvain Lefavret, responsable du projet Un chercheur, une manip au Palais de la Découverte. Ce stand sur le chromatographe n'est plus sur place, mais d'autres stands dans d'autres domaines sont à venir, comme pétrole et émulsion par exemple, des stands accessibles à un très large public pour découvrir de manière ludique les travaux de chercheurs de domaines divers tels que l'agronomie, la géologie ou encore les médias. Alors n'hésitez pas à pousser les portes du Palais de la Découverte à Paris, et puis également nous vous renvoyons à leur site internet au www.palais-découverte.fr. Merci de nous avoir suivis et à très vite sur Canal Académie.